BW. Magazine Santé.
Bonjour à toutes et à tous. Alors que la fièvre hémorragique Ebola continue de progresser en République démocratique du Congo, on s'intéresse cette semaine à l'après. Comment le système de santé d'un pays touché par ce virus mortel se relève-t-il après son éradication? Se relève-t-il d'ailleurs tout court? Nous nous penchons cette semaine et la suivante sur le cas du Libéria, un pays touché par Ebola en 2013-2014, en même temps que la Guinée et la Sierra Leone. Mais avant, direction le Cameroun pour parler de la cardiopathie rhumatismale, une maladie cardiovasculaire méconnue. C'est Constance Fischer au micro. Bienvenue à l'écoute de votre magazine Santé. Vous allez l'entendre dans un instant, la cardiopathie rhumatismale est surnommée la maladie de la pauvreté. Pathologie grave, elle apparaît généralement dans l'enfance et peut entraîner la mort ou un handicap à vie. Et pourtant, c'est une maladie cardiovasculaire qui peut être évitée si on agit à la source. La cardiopathie rhumatismale intervient en effet après des angines maltraitées. Au Cameroun, nombreux sont ceux qui ignorent les complications qui peuvent découler d'un mal de gorge lorsqu'il est pris à la légère. Un reportage d'Elisabeth Hassen, notre correspondante à Yaoundé.
33 millions de personnes environ dans le monde souffrent de cardiopathie rhumatismale. Cette prévalence est comparable à celle du sida, mais très peu le savent. Au Cameroun, sa prévalence varie de 6,5% dans certaines études communautaires et de 62,5% dans certaines structures hospitalières. Comme quoi, sur une population de 100 enfants, environ 7 souffrent de cette maladie.
Bonjour.
Nous sommes allés à la rencontre du docteur Nathan Yangwu. Il est médecin et président de la Cameroon Rheumatic Heart Disease Initiative. Il explique les causes de cette maladie.
Les cardiopathies rhumatismales généralement surviennent des années chez certains enfants prédisposés qui ont eu des angines à répétition pendant leur enfance. Donc, la cause principale des cardiopathies rhumatismales, ce sont les angines. Et ces angines-là, généralement, surviennent à cause d'une infection bactérienne. Et les infections bactériennes, on les retrouve généralement chez les enfants qui vivent dans la promiscuité, qui sont pauvres, qui n'ont pas accès aux soins de santé de base. Et généralement, on dit que c'est une maladie de la pauvreté parce que les cardiopathies rhumatismales, si vous essayez de voir, elle atteint surtout les enfants qui ont grandi dans des quartiers assez défavorisés où l'hygiène n'était pas vraiment celle qui doit être et aussi qui ont toujours eu du mal à se rendre à l'hôpital pour consulter, certainement parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens.
La CRHDI est une association de médecins camerounais engagée dans la lutte contre cette tueuse silencieuse, mal connue des populations camerounaises. Nombreuses sont celles qui ignorent les conséquences qui peuvent survenir en cas d'angine maltraitée. Pire encore, très peu consultent un professionnel de santé. Adèle est mère d'enfant et n'a jamais eu recours au médecin.
Lorsque mes enfants souffrent d'angine, ce que je fais premièrement, c'est leur faire un bain de gorge à l'aide d'eau tiède salée. Ensuite, je prends quelques braises de charbon et après avoir consommé cette eau, au bout de quelques 45 minutes, les enfants sont soulagés. Lorsqu'elles font la fièvre, je leur donne du paracétamol. Et je ne suis jamais allée dans une pharmacie acheter un médicament quelconque pour soigner l'angine de mes enfants. Ou bien même, parce que moi je suis atteinte de cette inflammation de la gorge, je prends juste ces méthodes de grand-mère.
Pascal, quant à elle, souffre tout le temps d'angine et c'est dans la pharmacie du coin qu'elle trouve son compte.
Généralement, ce que je fais, c'est que j'achète les comprimés de pénicilline à la pharmacie et il ne faut pas les avaler avec de l'eau, mais il faut les sucer. Le problème dans ça, c'est que sucer, alors, c'est encore plus amer que la quinine même. On a tendance à rejeter ou même à vomir, mais quand tu penses que tu dois te soigner, parfois tu n'as pas le choix. Ça te prend une semaine, deux semaines avant de terminer complètement.
Les angines sont des infections de la gorge assez fréquentes qui sont dues soit à des virus, soit à des bactéries. Dans le cas où elles sont dues aux bactéries et qu'elles ne sont pas correctement soignées avec des antibiotiques appropriés, elles peuvent entamer le système immunitaire, attaquant ainsi les articulations, le cœur, la peau et même le cerveau. La complication redoutable est l'atteinte cardiaque. À ce stade, le seul traitement est une opération du cœur, explique le docteur Yangwu.
Ça, c'est quand la maladie est déjà très avancée, il faut une chirurgie cardiaque. Et ce traitement-là n'est pas très accessible dans notre pays, vu que la chirurgie cardiaque coûte excessivement cher et vu que beaucoup de familles sont pauvres, très peu peuvent s'offrir ces soins-là.
Pour éviter d'en arriver à ce stade de la maladie, la CRHDI organise une fois par mois des rencontres avec les populations pour la sensibilisation et l'administration des traitements, ce qui n'est pas toujours évident car cela nécessite beaucoup de moyens.
On les soutient en leur apportant gratuitement des injections mensuelles de benzathine pénicilline. Et puis il y a aussi le volet social qui consiste à la sensibilisation sur le danger des angines, parce que si la maladie est arrivée à ce stade, c'est parce que les angines ont été négligées.
Jusqu'ici, cette association de jeunes médecins camerounais n'a bénéficié que de l'appui de l'ONG sud-africaine, la RHD Action. Pour que le projet survive, il faudra encore plusieurs autres partenaires pour permettre le déploiement sur l'étendue du territoire national. Elisabeth Hassen, à Yaoundé, pour la Deutsche Welle.
Vous écoutez la DW.
Vous écoutez la Deutsche Welle, vous écoutez le magazine Santé et on se rend en Afrique de l'Ouest à présent, au Liberia plus exactement, un pays qui après deux guerres civiles a eu affaire avec Ebola, c'était en 2014. Aujourd'hui, l'épidémie n'est plus qu'un très mauvais souvenir, mais le système de santé reste lui fragile, tout comme la santé des Libériens, soumise notamment au paludisme, à la mortalité maternelle ou à différentes formes de cancer. Notre consoeur Laura Zalm-Reifersch a pu s'en rendre compte. Voici la première partie de son reportage.
Ça fait deux jours que je me sens pas bien. C'est pour ça que je me suis rendue à l'hôpital. Je suis enceinte et je souffre d'ulcères à l'estomac. Ils m'ont dit que j'avais la typhoïde. Ils m'ont admise hier pour que je reste en observation.
Kwanford Jeberzi, 37 ans, est accroupi sur un lit sous une moustiquaire dans une salle presque vide de l'hôpital Sibi Dunbar. La maternité se trouve sur la route principale de Banga, une petite ville à environ 3 heures de la capitale du Liberia, Monrovia. La jeune femme se sent faible, a de fortes douleurs abdominales et elle respire rapidement. Elle attend son troisième enfant.
Ils m'ont donné une ordonnance et j'ai acheté les médicaments. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas tous les médicaments dont j'ai besoin ici. Ils m'en ont donné certains et m'ont dit qu'il fallait que j'achète les autres.
Kwanford Jeberzi a déjà dépensé plus de 3 000 $ libériens, soit environ 16 € pour des médicaments depuis qu'elle a été admise à l'hôpital. Cela représente à peu près un tiers de son salaire mensuel en tant que professeur. Et manque de chance, l'un des médicaments qui lui a été prescrit est en rupture de stock dans toutes les pharmacies de Banga. Elle a dû envoyer son mari jusqu'à Monrovia pour tenter de le trouver.
C'est inquiétant. Si je ne prends pas le médicament, je souffre beaucoup. Donc, je ne peux pas faire autrement que de m'en remettre à Dieu jusqu'à demain. Le personnel de l'hôpital est ici, il prend soin de nous, mais souvent le patient doit acheter des médicaments avant d'être traité. Donc, quand vous êtes dans un état critique, vous devez faire des kilomètres pour trouver les médicaments. Et si vous ne les trouvez pas, tout peut arriver.
Les yeux de la jeune femme en disent long sur son état de fatigue. Elle porte un débardeur blanc et elle a noué un joli tissu autour de sa taille. Les couleurs de ses habits tranchent avec l'ambiance sombre de la salle dans laquelle elle se trouve. Une torche dans la main, une cuillère dans l'autre, Kwanford Jeberzi dîne. L'hôpital n'a pas assez d'argent pour faire fonctionner les générateurs toute la journée. La jeune femme a déjà donné vie à deux enfants dans cette maternité, mais à l'époque, dit-elle, les conditions étaient nettement meilleures. Les stocks de médicaments notamment n'étaient pas épuisés. Cette fois, elle doit payer pour tout, alors qu'il s'agit d'un hôpital public et qu'en théorie, les soins et les traitements devraient être gratuits.
La vie devient très difficile, je ne sais pas, c'est peut-être à cause de la situation économique ou à cause du nouveau président, de la transition. Ils n'ont pas encore tout mis en place, mais tout est en train de devenir compliqué. La santé, l'éducation, si tu n'as pas d'argent, le quotidien est vraiment dur. Voilà un peu plus d'un an et demi que George Weah est arrivé au pouvoir au Liberia. Investi en janvier 2018, l'ancien footballeur a promis de lutter contre la corruption, attirer des investisseurs et redémarrer l'économie du pays. Un programme ambitieux auquel il faut ajouter la refondation d'un système de santé mis à terre par Ebola. Le virus a emporté 5000 personnes, parmi eux aussi des médecins, des infirmiers, des infirmières. Mabel Moussa a eu de la chance, elle est en vie et elle travaille comme infirmière maternelle à l'hôpital Sibi Denbar dans des conditions très difficiles. Récemment, nous avons eu une patiente entre la vie et la mort. Elle avait un besoin urgent de médicaments. J'ai fait tous les étages de l'hôpital, demandé aux infirmières des autres services, impossible de trouver ces médicaments. Et avant même que nous puissions écrire une ordonnance, la patiente était partie. Cela nous a beaucoup marqués. Le gouvernement fait peut-être de son mieux, fournit des médicaments, mais ce n'est pas assez. Au bout d'une semaine, les stocks sont de nouveau épuisés. C'est vraiment un énorme défi pour nous et pour les patients. Parfois, on voit même des gens sortir pour acheter des gants, pour nous, pour que nous puissions travailler. Sauf qu'ils les ont touchés, ces gants, et nous nous mettons donc en danger si nous les prenons. Mabel Moussa s'est battue en première ligne contre Ebola comme infirmière ambulante. Elle allait chercher des patients au fin fond des villages et les emmenait dans un centre de traitement Ebola. Lorsque la fin de l'épidémie a officiellement été proclamée, la jeune femme est retournée travailler à la maternité. Quand elle repense aux morts et à la souffrance endurée par la population à cause d'Ebola, cela la rend triste, mais elle admet aussi que certaines choses fonctionnaient mieux à l'époque.
Pendant
l'épidémie, il y avait des ambulances qui se rendaient dans les communautés pour aller chercher les gens. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais le fait est que même après Ebola, les gens qui habitent dans les villages tombent toujours malades, sauf que personne ne vient plus les chercher maintenant, ou on vient les chercher en retard, parfois trop tard. Pendant Ebola, les ambulances et les partenaires étaient là. Maintenant, on nous dit retour à la normale comme avant, peu importe que les gens souffrent.
To live a normal movement, but then all people are still affected.
On quitte Mabel Moussa, infirmière à Banga, pour quelques jours seulement. La semaine prochaine, vous pourrez écouter la suite de ce reportage sur le système de santé au Liberia après le passage du virus Ebola. En attendant, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français, rubrique médiathèque, pour retrouver les podcasts des émissions précédentes. Restez en bonne santé et à l'écoute de la DW.